Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime, Justine Vigneault, Laure Broulard, aujourd'hui Alexandre Cagzan qui est à la technique de notre émission. Et à la une, vous l'avez entendu, on en parlait il y a un instant avant le flash avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. C'est vraiment un des crimes les plus atroces que les enquêteurs de la police judiciaire de Bruxelles ont eu à mener, enfin sur, ils ont mené cette enquête en pensant qu'ils allaient réussir à élucider ce mystère, et 30 ans après, malheureusement, l'affaire a été classée officiellement par la justice belge, et vraisemblablement on ne saura jamais ce qui s'est passé, à moins qu'un jour, pris par le remords, ou par les regrets, ou par le fameux grain de sable qu'on trouve dans tous les bons romans policiers, quelqu'un se décide à parler, car quelqu'un sait certainement ce qui s'est passé ce 13 février 1980 à Bruxelles. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire de cette lycéenne de 16 ans retrouvée assassinée dans des conditions atroces, je voudrais saluer dans ce studio la présence de mon invité Liliane Scrowen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous savez, on reçoit ici beaucoup, souvent, des journalistes d'investigation, des enquêteurs, des policiers, des gendarmes. Plus rarement des romancières, et c'est votre cas. Et vous publiez aux éditions de Boré, et ça nous a évidemment pas échappé, d'où votre présence ici aujourd'hui, vous publiez un livre aux éditions de Boré intitulé « Les grandes affaires criminelles en Belgique ». C'est une collection qu'on connaît bien ici, puisque département par département, l'éditeur nous dresse un tableau, j'allais dire, à la fois historique et actuel des crimes qui ont bouleversé l'opinion. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un livre de chez De Boré sur les affaires criminelles belges. Alors, je me suis jeté sur ce livre, évidemment. Et je voudrais plus sérieusement dire que ce qui m'a beaucoup touché dans la manière dont vous abordez les 14 affaires criminelles dont vous parlez dans votre livre, Liliane Scrowen, c'est que toutes ces histoires auraient pu, pratiquement toutes, arriver à n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. Et ça a attiré la femme de fiction que vous êtes.
Oui, c'est ça. Moi, je suis avant tout romancière et nouvelliste. Et ceci, c'était une commande. En fait, c'est un peu le fruit du hasard. Les éditions de Boré cherchaient quelqu'un qui n'a pas voulu le faire et qui m'a contactée. J'ai dit pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect humain. Bien sûr, j'ai une formation universitaire, donc j'ai fait des recherches tout à fait sérieuses. Et voilà, c'est pas du grand scandale à la une. Oui, mais
il n'y a pas de fiction, il n'y a pas d'invention.
Il n'y a pas d'invention.
Et il n'y a pas de tape à l'œil,
voilà.
On va dire.
Mais c'est le côté humain, parce qu'en effet, victime, on peut tous l'être, ça c'est sûr. Oui. Et les trois quarts des histoires, on aurait aussi pu basculer du côté de l'assassin.
Du côté de l'assassin.
Pas grand chose finalement.
Ouais. Alors, on a coutume de dire que l'imagination criminelle est sans limite. Il y a une, on viendra à la fin de l'émission sur une affaire vraiment en prenant le temps de la raconter, qui s'est passée tout de suite au moment de la libération de la France, mais la Belgique était encore occupée par les Allemands, en juillet 1944. Une histoire extraordinaire à cause de la personnalité justement d'une des protagonistes.
Voilà,
parce que sinon c'est le mari, la femme, l'amant, va dire oh c'est banal. Cette femme était pas banale. Mais en même temps, quand je dis l'imagination criminelle est sans limite, vous avez trouvé, vous racontez une histoire qui tourne autour d'un empoisonnement avec un produit qu'on n'attendait pas dans une histoire criminelle.
Ah oui, on est très fiers en Belgique, on a inventé des tas de choses, et notamment le seul meurtre qui ait jamais été commis avec cette arme-là, la nicotine,
voilà.
L'huile essentielle de nicotine.
Voilà, qui est un poison violent.
Une goutte suffit à vous tuer.
Voilà, et qui a été utilisé par un apprenti sorcier qui voulait se débarrasser de son beau-frère pour avoir l'héritage, quoi, en fait.
C'est ça.
Alors, on va en venir maintenant à l'affaire que je voudrais développer avec vous dans ses moindres détails, parce que vous avez revisité toute l'enquête. C'est l'histoire de cette lycéenne assassinée en 1984. Ça se passe dans les environs de Bruxelles, au soir du 13 février 84. Ça commence par un coup de fil au numéro de secours.
Dont numéro d'urgence.
C'est pas le 911 comme aux États-Unis.
C'est le 906 à l'époque.
Voilà.
Ouais. Et donc, les policiers reçoivent un appel en disant qu'on voit de la fumée s'échapper d'une maison abandonnée. Mmh. C'est un quartier, il y a d'ailleurs eu beaucoup d'articles de presse bien avant l'incident. C'est un quartier qui est tout à fait abandonné, avec des squats, enfin, c'est vraiment un chancre urbain à Bruxelles. Oui. Et on voit de la fumée s'échapper. Donc, les policiers et les pompiers arrivent. Ils trouvent d'où vient la fumée. Bon, rien de bien grave. Mais une fois qu'ils ont résolu le problème, ils voient une autre fumée s'échapper d'un sous-sol par une cheminée d'aération. Et c'est une champignonnière désaffectée. Oui, donc, ils se font guider par un vieux type qui squatte un peu sur place, le vieux Jeff. Ils se font guider dans les sous-sols. Et là, ils trouvent
cette scène horrible,
quelque chose d'affreux.
Ouais. Et à tel point qu'on ne pourra identifier le cadavre que grâce, comme j'ai indiqué très rapidement tout à l'heure, à des bijoux, notamment cette jeune fille. Alors, elle s'appelle Christine Van Hesse. Ce qui est terrible dans l'histoire, ça se passe, ce qu'on vient de raconter, le 13 février aux alentours de 21h. La nuit passe. Et le lendemain 14, les parents de Christine Hesse signalent sa disparition.
Son père se rend à la gendarmerie.
Au commissariat,
oui, pour signaler la disparition de sa fille qu'il n'a plus vue depuis la veille.
Oui. Et
à ce moment-là, on est déjà, les forces de l'ordre sont déjà en train de se poser des questions sur qui est ce cadavre qu'on a trouvé. Donc, ils font le rapprochement, ils proposent les bijoux, et là,
on la reconnaît. Alors, c'est une affaire, on peut se poser la question et on essaiera d'y répondre. 30 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. L'enquête a été particulièrement difficile et lors d'une émission de l'heure du crime au printemps dernier, nous avions eu le témoignage sur cette affaire, le témoignage de Monsieur Christian Devrome. Monsieur Christian Devrome, c'était à l'époque le patron de la brigade criminelle de Bruxelles et il m'expliquait dans l'extrait qu'on va entendre les circonstances de la découverte du corps et surtout les raisons qui ont fait que il y avait très très peu d'indices exploitables sur la scène du crime.
D'abord, les constatations ont été extrêmement difficiles. Nous sommes la nuit, dans une champignonnière qui est complètement plongée dans la pénombre, sous le sol, qui fait environ 50 mètres de long sur 6-7 mètres de large. Champignonnière où il n'y a que des marginaux, des punks et des toxicomanes qui se rendent. Et en plus, les pompiers sont passés. N'oublions pas cela, lorsque des services de secours ou des pompiers qui font leur travail, qu'ils font souvent avec beaucoup de courage, sont passés, je dirais que la plupart des traces disparaissent.
Et oui, bien sûr.
En plus de cela, la petite jeune fille a été brûlée. Elle a été brûlée, ce qui est un truc assez souvent rencontré, où les malfaiteurs détruisent leurs voitures ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Ici, ils ont brûlé pour essayer d'effacer le maximum de traces.
Ouais.
On retrouve cette petite jeune fille qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, puisqu'on l'a identifiée avec son seul pendentif, celui qu'elle avait autour du cou. D'ailleurs, la maman, quand on lui a présenté ce pendentif, on a fait le tour de tous les immeubles qu'il y avait dans les environs. Et on l'a présenté à la maman, elle s'est sentie mal, ce qu'on peut comprendre.
Bien sûr.
Donc, il y a eu cela, et les constatations ont été extrêmement difficiles. Même les médecins légistes ont eu beaucoup de difficultés à faire des constatations. Mmh. On dit qu'elle a été violée, il n'y a aucune certitude qu'elle ait été violée. Pour la simple raison que le corps était dans un tel état qu'il était difficile de déterminer s'il y avait eu viol ou non.
Oui.
Mais un autre élément est intervenu qui permet de croire qu'elle a été violée. Et cela, peut-être, je pourrais vous l'expliquer un peu plus tard, après les constatations.
Oui.
Nous sommes retournés à plusieurs reprises sur place pour essayer de trouver des traces. On a retrouvé certains cahiers, disons, à proximité, un bijou, mais rien d'autre qui puisse l'identifier.
L'enquête, bien sûr, on va vous la raconter en détail dans un instant avec Liliane Scrowen, mon invité.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
À suivre, évidemment, l'enquête qui a été menée pendant de très nombreuses années. Mais là, on va revenir vraiment au jour, comment dire, où s'est déroulé le drame. Dans un instant. Non, pas dans un instant, tout de suite. Voilà, je ne sais plus où j'en suis dans le conducteur de l'émission. C'est pas grave, c'est à nous. Alors, on retrouve donc l'invité de l'heure du crime, Liliane Scrobben. Les policiers vont évidemment faire ce que font tous les policiers dans une enquête de ce type, essayer de reconstituer les dernières heures ou les dernières journées de la victime à partir du moment où elle sera identifiée, et d'essayer d'obtenir des témoignages de son entourage proche, c'est-à-dire ses parents, sa famille, bien sûr, et aussi ses amis, puisqu'elle est écolière. Qu'est-ce qu'on peut dire de la famille de cette jeune fille ?
C'est une famille... Les parents sont libraires, donc ils vivent... Ils ont leur appartement dans le même bâtiment que la librairie. C'est une famille tout à fait qui aime ses enfants, qui s'en occupe bien. Elle est une adolescente type, je dirais, c'est-à-dire à la fois soumise et obéissante à ses parents, mais elle a 15 ans et demi, donc temps en temps elle découche, elle ment, elle dit
qu'elle va chez les copines,
elle fait l'école buissonnière,
on va découvrir tout ça.
Voilà, progressivement, ce que les parents ne voudront jamais admettre d'ailleurs, ils n'ont jamais accepté ça, ils disent que ce n'est pas vrai, mais enfin, l'enquête l'a prouvé. Elle a un frère, elle est relativement bonne élève, elle a des amis, elle tient son journal intime, elle s'intéresse beaucoup, comme presque tous les jeunes de son âge à l'époque, au mouvement punk, à la musique new wave, à ce climat un peu ésotérique, un peu satanique parfois. Donc, je dirais, c'est une jeune fille banale.
Voilà, mais elle a fait des confidences à certaines amies, en tout cas qui vont le rapporter aux enquêteurs et qui donnent quand même un autre éclairage qui laisse à penser, vous allez nous donner votre avis, qui laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, dans les semaines ou les mois qui ont précédé.
Elle tient un journal intime qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé, mais dont elle a montré des extraits à certaines amies. Et elle a dit à une amie aussi, elle a raconté qu'elle avait rencontré des gens qui étaient inquiétants, en citant notamment des prénoms, un certain Marc, entre autres, qu'ils étaient beaucoup plus âgés qu'elle, qu'elle en avait peur. Elle dit même que c'est des gros porcs, elle le dit comme ça, mais qu'elle a du plaisir avec eux, qu'elle a à la fois peur et un certain plaisir, disons ça comme ça. Qu'il y a des jeux violents qui commencent dans la douceur mais qui finissent dans la violence. Une de ses amies dira qu'elle a constaté des brûlures de cigarettes ou des bleus sur ses bras, et qu'elle lui a expliqué que c'était donc des jeux qui avaient mal tourné. Et à un certain moment, elle va aussi dire qu'elle voudrait ne plus aller les voir là où elle les voit, mais elle ne dit pas où, mais c'est peut-être la champignonnière, mais qu'elle n'ose pas parce qu'elle en a peur. Elle va dire qu'ils ont menacé de tuer ses parents et ses frères, donc si elle n'invente pas, parce qu'à cet âge-là, on invente beaucoup aussi, si elle n'invente pas ne serait-ce qu'une partie, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très inquiétant.
Oui. Alors, ces dernières heures, elle va à l'école. Normalement, là, elle ne fait pas apparemment l'école buissonnière. Elle quitte son lycée.
Elle se rend à l'école le matin, normalement, et il n'y a pas cours parce qu'il y a une visite du palais de justice de Bruxelles à laquelle elle participe, normalement. Ouais. L'après-midi, elle va au cours.
Elle sort vers 16h30.
Elle quitte avec une amie. Elle se promène un peu avec elle et elle voit une librairie avec un service de photocopie dans laquelle elle voit par la vitrine un de ses amis qu'elle a connu à un camp scout. Donc elle rentre pour lui parler.
Voilà. Et puis un peu plus tard, je crois que les derniers témoignages, c'est aux alentours quand même
de
18h. 18h, on va la voir accompagné d'un autre ado, apparemment, en tout cas d'un garçon assez fluet.
C'est ça, habillé avec en jean. Un des témoins veut dire qu'il est habillé comme les punks de l'époque. Voilà, ce qui ne veut pas dire grand chose. On va l'apercevoir aussi dans une cabine téléphonique. Et puis vers 18h45, on va entendre des hurlements, femme.
Ça, c'est très important.
Une femme qui nettoie, qui est dans le quartier et qui a comme métier de nettoyer, une femme de ménage, je suppose, entend des hurlements qui durent assez longtemps, avec maman.
Assez longtemps, c'est près de 10 minutes, même. Et cette personne n'avertit.
Et elle ne dit rien. Ça, c'est hallucinant, mais Je me suis souvent dit en écrivant ce livre que les gens sont incroyables. Ils voient des choses monstrueuses qui se passent à deux pas de chez eux, voilà. Où ils entendent et ils interviennent pas.
Voilà. Donc voilà. Et puis après, 20h45, 21h, cet appel aux pompiers, l'incendie et la découverte du corps. Alors voilà donc comment dire, une enquête qui commence très difficilement. Il n'y a pas de témoin direct. En dehors de tout ce qu'on vient de rappeler, il n'y a rien d'autre. Et les policiers vont commencer, évidemment, à émettre un certain nombre d'hypothèses. Alors, il y a un témoignage qui va devenir important, mais ça, on va peut-être en parler dans quelques minutes, mais je ne sais pas si chronologiquement, c'est le premier témoignage qui commence à mettre les policiers sur la piste, justement, des punks ou des marginaux de ce quartier. C'est des témoins qui disent avoir vu dans le quartier, pas forcément associé à Christine, mais une voiture américaine, une Pontiac, avec un énorme aigle sur le capot.
Oui, et donc on va enquêter sur cet aspect-là aussi en se disant, elle avait l'air de tourner dans le quartier, est-ce que ce seraient les coupables ou les complices ? Mais je ne me suis pas trop attardée là-dessus parce que dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que les policiers avaient constaté que beaucoup de voitures avaient cet emblème peint, c'était la mode, voilà. Semble-t-il.
Donc c'était pas si exceptionnel.
Voilà, ça, en fait. Donc. Ouais. Ça n'a pas donné d'indication en tout cas.
Alors, on va faire une pause dans cette émission. D'ailleurs, je m'adresse à la fois aux auditeurs français et belges de l'heure du crime pour leur dire que si quelqu'un a soit quelque chose à dire à propos de cette affaire dont on parle, soit des questions à poser à mon invité, c'est le 3210 ou rtl.fr. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on revient maintenant avec mon invité Liliane Skrouwen, qui est l'auteur des grandes affaires criminelles de Belgique, un livre qui vient de paraître aux éditions Deboré. On revient sur l'affaire de la champignonnière et du meurtre ou de l'assassinat de cette jeune fille, parce qu'on peut se poser la question de savoir si elle est morte au cours de jeux qu'elle avait plus ou moins décrit, comme vous le racontiez tout à l'heure, en confidence à des amis, ou s'il y a eu vraiment une volonté, parce que comme le disait tout à l'heure le chef enquêteur qu'on a entendu, on n'a jamais pu établir qu'elle avait été violée, mais on sait en tout cas qu'elle a été torturée, quoi. Elle a été retrouvée avec ce macabre rituel, quoi. Elle était attachée.
Oui, et puis il y a quelque chose de très étrange, c'est que quand on a retrouvé le corps, donc dans les procès-verbaux de police du moment où on a vraiment trouvé le corps, on a fait des tas de constatations et notamment des traces de clous dans les poignets. Ouais. Et dans un poignet, le poignet gauche, je crois, il y avait clairement une trace de clou qui avait été enfoncé, et à l'arrière de la tête aussi. Mais dans les rapports d'autopsie, ça ne figure pas.
Ouais. Donc, alors voilà, encore un point d'interrogation autour de l'histoire. Alors, on parlait de l'enquête de la police. Vous parliez de cette femme qui disait avoir entendu des cris mais qui n'a rien dit à personne. Quelques jours plus tard, le 25 février, il y a trois jeunes gens âgés de 25 ans, 21 ans, enfin la vingtaine, quoi, qui sont arrêtés pour vol avec violence et attentat à la pudeur. L'un de ces trois est le frère d'un garçon qu'on a vu avec Christine Van Hesse, mais là encore, ça sera une impasse de l'enquête, ça ne débouchera sur rien. Et puis en avril 84, alors là, c'est intéressant parce que c'est des indices de la gendarmerie en fait, hein, qui leur disent d'aller voir dans le milieu punk. Ils vont dans tous les bistrots fréquentés par cette jeune fille, qui en fréquentait quand même pas mal, et c'est là où on tombe sur tout un petit monde, le monde des punks, où tout le monde a un surnom. Alors il y en a un qui s'appelle le petit tondu, l'autre Kleenex, le troisième clochard, et un autre qui s'appelle l'Iroquois. Alors ça, c'est important parce qu'il va revenir dans l'affaire. Qu'est-ce qui se passe là? Les policiers pensent que
c'est-à-dire que l'Iroquois, dont le nom est Serge C, Serge Claude apparemment, et qui est surnommé l'Iroquois, est arrêté le 28 juin et inculpé du meurtre de Christine Van Hesse assez rapidement, parce qu'il a déjà commis des attentats à la pudeur et il est dénoncé par d'autres. Mmh. Et donc il va d'abord nier en disant qu'il ne la connaît pas. Ensuite, il va donner des tas de versions. Oui, je la connais, j'ai assisté, mais c'était pas moi, mais c'est un autre, etc. Il va dénoncer certains de ses copains ou des membres de sa bande.
Dont certains se seraient vantés d'avoir été les auteurs.
Voilà, dont certains aussi se sont vantés auprès de lui. Ouais. Enfin bon, et Puis finalement, ce qui est très étonnant, donc on va arrêter tous ces gens-là, l'Iroquois, c'est-à-dire Serge en premier, mais aussi un certain Alain, qui est un de ses amis, et un type qui est joyeusement surnommé Vicious, ouais. qui est un militaire, en fait. Ouais. Et parce que se sont vantés d'avoir participé à tout ça, et ont donné des détails, mais en fait, le militaire avait un alibi parfait, parce qu'il était de garde à la caserne, ouais. donc c'est évidemment faux. Et finalement, après une enquête assez longue, il va y avoir un non-lieu. Ils vont être ouais. relâchés.
Alors, ce Serge Clauze, on va s'arrêter deux secondes sur lui, puisque dans un premier temps, il faut le dire, hein, il avoue oui. aux enquêteurs. Et puis après, il va se rétracter. Il va. Alors, ses propos, en fait, ne collent pas aux constatations des policiers.
C'est-à-dire, c'est très troublant parce ouais. qu'une partie de ses propos colle en effet tout à fait aux constatations. Ouais. Mais il y a des détails. Par exemple, quand il parle du fil qui liait la jeune fille, lui va parler d'un fil, un fil de fer métallique. Et en fait, c'est un fil électrique. Ouais. Et il va dire quand il va dire que finalement, c'était pas lui qui l'a inventé. Tout ça, il va dire que il a pris toutes ces informations chez les policiers en les entendant parler pendant ouais. les interrogatoires, ouais. ce qui est possible.
Voilà, et on va retrouver ce genre de choses tout au long de l'enquête. Mais là, nous, on a eu dans une émission précédente, c'est Margot Agnès qui l'avait interviewé, l'avocat de Serge Clauze, parce que il a donc été mis en prison, on va dire provisoire. Il a passé 3 ans quand même hein, en prison, et il a bénéficié, comme vous venez de le dire, d'un non-lieu en 1990. Alors, on a eu envie d'en savoir un petit peu plus en s'adressant à maître Didier de Kévy, donc son avocat, par l'intermédiaire de Margot Agnès. Et évidemment, l'avocat n'a jamais oublié à la fois cette affaire, ce serait difficile, ni non plus, il ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine satisfaction à avoir obtenu un non-lieu pour son client.
Monsieur Serge Clauze faisait partie d'une bande de punk et des gens qui squattaient cette fameuse champignonnière où la pauvre Christine Vanesse a été assassinée dans des conditions particulièrement atroces. Au début de l'instruction, d'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir été arrêté par le juge d'instruction Van Espen. Et finalement, il est resté le seul parce que il y avait contre lui plus d'indices que contre les autres où il y en a franchement très très peu. Et je pense qu'on avait retrouvé une empreinte de lui à proximité du lieu du crime. Le problème, c'est que Monsieur Serge Clauze était extrêmement confus parce qu'il ingurgitait de la colle qui était la drogue que les punks prenaient à l'époque et son cerveau était un peu ravagé par tout ça. Finalement, sa détention préventive a au moins eu un effet, c'est qu'il s'est désintoxiqué de toutes ces saloperies qu'il prenait. Il a quand même fait, je crois, presque 3 ans de détention préventive. Quand il a été libéré, c'était vraiment au bénéfice du dépassement du délai raisonnable. Et puis, une fois qu'il a été libéré, l'enquête est morte de sa belle mort. C'est une des premières causes d'affaires que j'ai plaidées. Il est clair que des affaires comme les tueries du Brabant Wallon ou l'affaire Clauze ou l'affaire Amers sont des affaires qui m'ont lancé et qui me laissent un souvenir en tant qu'avocat qui est bon puisque j'ai obtenu le non-lieu pour M. Clauze. Mais je ne peux évidemment que regretter qu'on n'ait pas trouvé les vrais coupables et que les parties civiles sont toujours en deuil.
Alors, on va tout à l'heure passer à d'autres pistes, hein, évidemment, et une piste quand même en lien avec l'affaire du trou qui mérite qu'on s'y arrête assez longuement. Mais pour clore, j'allais dire, le chapitre des punks, de tous ces gens qui avaient ces surnoms que je citais tout à l'heure, il y en avait un qui s'appelait, donc on appelait Clochard, et on ne peut pas ne pas remarquer que ce fameux Clochard va mourir 2 ans plus tard, lui en 86, hein, pendant que Clauze est incarcéré, il va mourir d'une overdose, mais là aussi, les policiers sont interrogés.
Oui, hein. c'est une overdose qui n'est pas accidentelle, qui lui a été infligée par un autre membre du groupe.
Du groupe, voilà.
Qui a d'ailleurs été emprisonné, jugé pour meurtre, qui a été emprisonné.
Ouais. En fait, la question, c'était, voilà, voilà. La question, c'était, est-ce que c'était...
Pour l'empêcher de parler, peut-être.
Pour l'empêcher de parler, quoi, en fait.
Ou pour voilà. d'autres raisons, voilà. ou par maladresse. Mais...
Ouais. Alors, point de suspension, une pause tout de suite, et après on parle de ce lien avec l'affaire du trou qui va arriver par le biais d'un témoignage assez incroyable. On va vous raconter toute l'histoire dans quelques instants.
L'heure du crime sur RTL.
Liliane Scroven est l'invitée de l'heure du crime pour son livre Les grandes affaires criminelles de Belgique, qui vient de paraître aux éditions de Boré. Elle passe en revue 14 histoires criminelles qui ont évidemment frappé l'opinion en Belgique. D'ailleurs, depuis, on l'a pas dit tout à l'heure, mais depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, hein, votre livre se termine sur une autre énigme, d'ailleurs celle celui qu'on a appelé le dépeceur de monstres, dont on reparlera peut-être ensemble un jour, parce que j'aime beaucoup, je l'ai dit au début, c'était pas un compliment gratuit, la manière dont vous abordez ces dossiers criminels, en vous intéressant beaucoup au contexte familial, au contexte social, et où vous essayez de nous faire comprendre ce que ces faits divers ont à nous dire sur l'époque où ils se sont déroulés. Alors, je reviens là à l'enquête sur la mort de cette jeune fille de 16 ans. La piste Punk, elle va s'éteindre d'elle-même. Et puis, 1997, hein, puisque, souvenons-nous, c'est en 1984. 1997, là, on se met à reparler Christine Van Hesse et de la champignonnière. Pourquoi ? Parce que cette année-là, le juge Conrot, dont le nom est connu des auditeurs, c'est le juge qui était en charge du dossier Dutroux. Eh bien, en 97, il cherche lui aussi des témoignages, des informations, éventuellement même anonymes sur l'affaire Dutroux, sur Dutroux et ses complices, et il propose au public une ligne, une sorte de numéro vert que les gens pourront appeler, même dans l'anonymat, pour essayer de recueillir donc des témoignages. Et la mise en place de ce numéro va déclencher une vague d'accusations énormes, tous azimuts et dont certaines sont carrément fantaisistes, mais les enquêteurs vont les vérifier une à une, et c'est là où intervient un témoignage lors d'un témoin anonyme qu'on appelle X1, tous les Belges.
Mais maintenant elle n'est plus anonyme.
C'était Regina Louf.
Pour la petite histoire, Louf en belge, je dirais, en bruxellois veut dire fou.
Oui, d'accord, oui, ben.
Donc ça lui va.
Ça se dit aussi, en bon français, hein.
En bon français aussi, ça va.
C'est un peu louf, on
un
dit
peu bon. Louf.
Voilà. Mais, on va pas, on n'est pas psychiatre, donc on va pas s'étendre sur la santé mentale.
Non, mais elle est mythomane, elle a même impliqué dans cette affaire.
Oui, bien sûr. Bon, elle disait qu'avec des amis, elles avaient été prostituées, livrées à des notables, etc., sous évidemment la direction de Marc Dutroux. Et cette femme, au cours de son témoignage, va dire elle a des choses à dire sur l'histoire de la champignonnière. Elle était là, elle a assisté à la mort de cette jeune femme, et Dutroux était là, bien sûr, ainsi que Nioul et d'autres, et la femme de Dutroux, Michel Martin. Alors, avant de vous laisser dire ce que vous dites dans votre livre, je voudrais qu'on écoute ce que pense de cette affaire-là le journaliste du Soir, Marc Met de Penningen, qui est un habitué de l'heure du crime. On avait eu l'occasion dans le passé d'évoquer ce fameux témoignage. Écoutez.
Parmi les appelants se trouve cette fameuse témoin X1, nom de code pour Regina Louf, qui effectivement va raconter qu'elle avait été intégrée dans un réseau de pédophilie dont elle était la victime. On l'entraînait dans des châteaux de Flandre, chez des industriels, et elle va effectivement lâcher le nom de Christine Van Hesse. Et elle décrit une scène hallucinante qui voudrait que Christine Van Hesse ait été tuée en présence de Marc Dutroux, ses complices, Michel Nioul, y compris le juge d'instruction chargé de l'affaire dès le début, à savoir M. le juge Van Espen, et d'autres intervenants, tous alignés en rang d'oignon pendant que l'on mettait, quand d'inconnus mettaient le feu au cadavre de Christine Van Hesse. Scène irréaliste, impensable, qui a été passée à la moulinette de ce qu'on appelle une relecture par les enquêteurs, d'autres enquêteurs que ceux qui lui avaient accordé foi. Et tout cela s'est révélé être du pipeau.
Alors, du pipeau, certes, on va pas dire le contraire de ce que dit Marc Met de Penningen, mais quand même, Christine Scroven, dans votre livre, vous donnez des éléments qui font que c'est troublant quand même. Vous avez cité tout à l'heure le fait qu'elle parlait d'un certain Marc.
Bon, Marc est un prénom très répandu, mais elle a Elle a dit que dans le groupe de gens un peu dangereux et inquiétants qu'elle fréquentait, il y avait un Marc qui était plus âgé que les autres, qui roulait en grosse moto, qui était originaire de Mons, ce qui correspond évidemment à Dutroux, mais il y a des tas de Marc qui roulent en moto et qui habitent Mons.
Elle fréquentait
la patinoire du Poséidon que Marc Dutroux fréquentait et où il a d'ailleurs fait la connaissance de son épouse. Et elle fréquentait aussi une piscine dans laquelle se trouvait à l'étage une radio libre dirigée par Michel Nihoul. Donc ça fait quand même...
Ça fait beaucoup.
Quoi. Ça fait des coïncidences, mais encore une fois, ils ont investigué et ils n'ont rien trouvé, semble-t-il.
La piste des tueurs du Brabant, qu'est-ce que vous pouvez en dire un mot?
Mais c'est-à-dire que dans les dénonciations des punks et notamment de l'Iroquois Serge, il a dit une de ses multiples versions, c'est qu'elle avait été tuée pour des raisons politiques parce qu'elle avait entendu qu'on allait faire un vol d'armes dans une caserne et que
elle aurait dû entendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre.
Elle-même a dit à une de ses amies qui en a témoigné, j'ai peur parce que j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Il se fait que après la mort de Christine Vanès, il y a effectivement eu un vol d'armes dans une caserne et on a fait le lien avec les tueurs du Brabant et avec les CCC, les cellules communistes combattantes, parce que ces armes étaient probablement utilisées pour une de ces deux pistes. Mais bon, encore une fois, ces coïncidences, ces liens sur liens, on peut toujours trouver un lien entre deux individus qui habitent aux deux pôles de la planète.
Et d'autant plus qu'on n'a jamais résolu le mystère.
On n'a jamais résolu.
Cette année 2014 a vu la clôture officielle du dossier.
L'affaire est prescrite depuis le mois de mai, je pense.
Voilà, 30 ans après, et à moins d'un rebondissement absolument extraordinaire, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. On va faire une dernière pause dans cette émission. Et on va se retrouver ensuite pour parler d'une autre affaire criminelle que vous racontez dans votre livre et que j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez, enfin en partie, pas complètement, je renvoie tout le monde évidemment au livre. Mais c'est une histoire qui se passe à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est vraiment passionnante. On se croirait dans un roman, mais c'est la vérité, la réalité.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les grandes affaires criminelles de Belgique, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions De Boré, signé de mon invité Liliane Scrowen, que j'ai invité parce que elle a un regard de femme de lettres, de romancière sur des affaires criminelles. Elle ne touche pas à la réalité des faits, bien sûr, mais vous intéressez beaucoup aux personnages, à la psychologie des personnages, à l'époque où ces faits divers se sont déroulés. Et pour terminer, je voudrais qu'on évoque une des histoires que vous racontez, qui se passe bien sûr en Belgique, dans la région tout près de Mons, la ville de Mons. On est en... Alors, le procès aura lieu en 48, mais là, on est en 1944, été 44, juillet, très exactement. Depuis le mois de juin, il y a eu le débarquement des Alliés en Normandie, mais la Belgique est toujours occupée, et il va y avoir une espèce de... Il va y avoir un grand mystère, c'est la disparition subite d'un avocat, mais je vous laisse raconter.
Oui, c'est une histoire passionnante et qui moi m'a passionnée parce que personne ne l'a encore traitée. Je suis tombée presque, enfin pas par hasard, mais par relation, je dirais, sur un dossier très très complet sur cette affaire, que personne ne connaissait d'ailleurs. Oui. Et donc c'est un peu pour ça que je m'y suis intéressée aussi. Et donc en effet, on est à la toute fin de la guerre, on écoute à la radio, à Mons et ailleurs, la progression des troupes alliées qui vont... Mons est tout près de la frontière française, hein. Oui. Donc, qui vont bientôt libérer la Belgique également.
Ouais, mais enfin, les Allemands sont là.
Les Allemands sont là.
Et il y a aussi, c'est important pour l'histoire, il y a une milice...
Le parti Rexiste.
Local, hein, voilà. Qui
c'est,
sont
pas,
des...
c'est pas une milice locale, c'est un mouvement, c'est le fameux mouvement de Léon de Grelle, qui...
Collaborateur, en tout cas.
Un collaborateur, qui...
C'est une espèce de police parallèle, quand même, non? Un peu, ou...
C'est un mouvement politique qui date d'avant la guerre, qui, d'extrême droite, très religieux, Rex, parce que Christus Rex, le Christ est notre roi.
D'accord.
Donc voilà, ça donne un peu... Ben, à l'origine, c'était juste religieux et très littéraire. Ils avaient une revue littéraire, ils ont fait une maison d'édition, et puis voilà, progressivement, ils ont eu des visées politiques, et puis ils se sont associés avec les nazis pour contrebalancer. Il y avait énormément de milices pro-allemandes en Flandre, et donc du côté wallon, ils ont créé ce mouvement pour contrebalancer. Et voilà. Ouais. Et donc, il y avait une police qu'on appelait la police Rex dans toutes les grandes villes, et qui travaillait en association avec les troupes allemandes. Et donc, ils vont également jouer un rôle. Et donc, on a là un avocat qui a 56-57 ans au moment des fêtes, qui est marié depuis assez longtemps avec une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. famille très très riche, l'avocat en tout cas est très très riche. Ils ont un fils qui est né après 11 ans de mariage. Et cette femme sera dépeinte au procès, mais elle est connue déjà pour ça, comme très belle, très coquette, mangeuse d'hommes, comme on dit à l'époque, vicieuse, amorale, dévergondée.
Vous dites dans le livre, on dirait plus ça aujourd'hui, mais on dirait qu'elle était libérée, quoi, une femme libérée,
voilà, une femme libérée.
Ouais, voilà. Bon. Enfin, libérée qui additionne les amants.
Elle additionne les amants, elle prend même des notes dans un petit carnet sur
les performances sexuelles
et sur les noms
de ses compagnons. Ouais.
Bon. Ouais. Et donc, on découvrira dans le procès, mais encore une fois, aujourd'hui, on aurait des psychiatres qui débarqueraient à la barre et qui expliqueraient tout ça. Mmh. Mais à l'époque, tout est dans le sous-entendu. Il semblerait, ses avocats vont le dire, et même le procureur vont le dire, qu'elle a été frustrée et qu'elle a connu, comme il dit poétiquement, la mortification de son sexe à l'intérieur du mariage. Donc, voilà. Le mari...
C'est une façon de dire que son mari était peut-être infusant,
voilà.
elle avait des excuses pour aller voir ailleurs, quoi, voilà. Oui.
Et donc, elle a beaucoup été voir ailleurs, jusqu'au moment où elle est tombée vraiment amoureuse. Et ouais. Donc, elle a connu une passion pour un homme plus jeune qu'elle, également, et d'un tout autre milieu, un homme beaucoup plus simple, un menuisier qui était un ancien gendarme, et qui faisait du marché noir, c'est comme ça qu'elle l'a connu. Et, le mari va, pour une fois, se fâcher. Les autres fois, il a toujours fermé les yeux.
Il va aller plus loin, il va même envisager le divorce.
Donc, il dit qu'il veut divorcer et garder l'enfant, qui n'est pas de lui.
Et c'est là où il va l'apprendre, que l'enfant n'est pas de lui.
Je pense que s'il n'a jamais couché avec sa femme, il devait s'en douter, mais...
Oui, mais allez savoir, on n'était pas là.
On n'était pas là.
Mais excusez-moi, mais... moi non plus. Hein. mais ce qui est formidable, c'est il y a un scénario criminel, voilà. Quand même, c'est-à-dire, quel que soit l'auteur véritable du meurtre, parce qu'il s'agit d'un meurtre, cette femme va signaler la disparition de son mari, parce que elle occupe un appartement à Mons, lui, il a une maison dans laquelle il s'est un peu réfugié, il va de Mons à sa maison en bicyclette, et elle va dire, ou elle va le voir aussi, il est là avec son fils et tout, pour le mettre à l'abri, et elle va dire un jour, mais j'ai vu une voiture dans ces gens gang des tractions avant, des
tout
types avec des manteaux de cuir, sont sortis, qui ont enlevé...
Et c'est parfaitement crédible, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont disparu de cette façon-là, à cause de la police rexiste.
Voilà. Et on ne trouve plus trace de l'avocat, il a disparu.
Et donc elle va le chercher partout. Voilà. Elle va alerter la Croix-Rouge internationale, à la fin de la guerre, elle va visiter les prisons, etc.
Voilà. Mais bon, on retrouvera le pauvre homme enterré en fait dans son jardin après des péripéties extraordinaires
à cause d'un affreux petit voyeur.
Voilà, qui va guetter,
qui a espionné ce qui se passait et qui
dans la salle de bain.
Voilà.
Voilà, exactement. Alors, on n'en dit pas plus, mais il y a eu un procès que vous racontez par le menu, puisque vous avez eu accès là vraiment à l'ensemble des documents de cette affaire exceptionnelle, meurtre d'un avocat sur fond de guerre et de passion. Voilà, mais toutes les histoires sont absolument formidables. Je vous remercie beaucoup d'être venu à l'heure du crime aujourd'hui, Liliane Scrowen. Les grandes affaires criminelles de Belgique sont parues aux éditions de Boré. Merci.
Merci de m'avoir invité, en tout cas.
J'ai envie de vous dire à bientôt.
À bientôt, d'accord.
L'émission est terminée et dans un instant, on va retrouver Flavie Flamand.